Frères et sœurs bien-aimés, nous entendons avec force le Seigneur nous inviter à la conversion. Pour méditer cette page d'Évangile, il nous faut comprendre et pour cela expliciter le contexte. Effectivement, deux accidents importants avaient eu lieu à l'époque de notre Seigneur Jésus le Christ, de telle sorte que cela était dans les mémoires. L'affaire des Galiléens. Les Galiléens étaient résistants vis-à-vis de l'occupant romain. Vous savez qu'à l'époque de notre Seigneur, voilà que l'Empire romain a annexé le royaume d'Israël et a placé à sa tête un gouverneur, Ponce Pilate. Mais voilà que parmi le peuple et parmi les Galiléens, un certain nombre faisait partie des Iscariotes, ce même mouvement dont est issu l'apôtre Judas qui sera le traître. Il s'agissait de montrer à l'occupant romain que son autorité était contestée car elle n'était pas légitime en Israël. C'est ainsi que pendant la Passion, par exemple, on fait connaissance de Barabbas. Barabbas avait été emprisonné après avoir organisé des émeutes, ayant sans doute conduit à des meurtres, dans la ville de Jérusalem. Et Pilate, en tant que gouverneur, doit bien asseoir l'autorité de l'empereur. Ces Galiléens refusaient catégoriquement que l'on offre un sacrifice pour l'empereur et le peuple romain, c'est-à-dire que l'on invoque le Dieu unique pour l'empereur. Quel est le problème ? Non seulement l'empereur occupe cette terre, mais également l'empereur revendique d'être une divinité. Ainsi donc, on n'offre pas tant un sacrifice à Dieu, on offre un sacrifice à la divinité de l'empereur et à sa suite à la divinisation du peuple de Rome. Et voilà comment Pilate a fait massacrer les Galiléens alors qu'ils offraient leur sacrifice au Dieu unique. Et dans le peuple d'Israël, on s'était dit finalement, car il y a toujours des résistants, mais à l'époque de la résistance, ils ne sont pas nombreux, hein. Ils sont plus nombreux après la libération à se revendiquer résistants que pendant les lieux du combat. Et bien voilà que le grand ventre mou d'Israël a trouvé que finalement, Pilate n'avait pas eu tort de ainsi massacrer ces Galiléens. Ne sont-ils pas, de par leur origine même, un peuple de pécheurs ? Ainsi donc, le peuple s'était rassuré en disant « Mais nous, on est juifs, Dieu nous protège ». Et voilà que les Galiléens, il ne les a pas protégés. Voilà pourquoi on pose cette question à Jésus. Qu'est-ce qu'il en pense ? Et le Seigneur d'appeler à la conversion. Et il précise bien, ne pensez pas qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres. Et le Seigneur prend un autre exemple. Voilà que la tour de Siloé s'est effondrée à Jérusalem, faisant 18 morts. Et le Seigneur prend cet exemple en disant « Mais n'allez pas penser que parce qu'eux sont morts, écrasés par cette tour, qu'ils étaient bien plus pécheurs que vous autres. » Car dans la mentalité d'Israël, la maladie, c'était le signe que Dieu n'était pas avec nous. La femme stérile, qu'est-ce qu'elle a pu donc faire au bon Dieu pour ne pas mettre au monde des enfants ? Ceux-ci sont morts écrasés par la tour, Dieu a donc dû le vouloir. Ainsi donc, Jésus déjoue tout cela en appelant non seulement le peuple d'Israël, mais tout homme et toute femme à la conversion. Qu'est-ce donc que se convertir ? Convertir, cela veut dire revenir vers Dieu, se tourner à nouveau vers Dieu, c'est-à-dire retrouver l'état de grâce dans lequel nous avons été créés. Adam et Ève, avant le péché, n'ont pas besoin de se convertir car ils sont déjà dirigés vers le bon Dieu. Ils reconnaissent qu'il est le Créateur, ils reconnaissent en lui le Seigneur. Mais voilà que après le péché, nous n'en faisons qu'à notre tête, moi le premier. Et voilà que le Seigneur nous invite sans cesse à nous convertir, c'est-à-dire à nous retourner vers lui, à revenir vers lui de tout notre cœur. Et l'Ancien Testament nous dira, même dans les pleurs, dans les larmes, voilà qu'il nous faut revenir au Seigneur, reconnaître humblement combien nous sommes pécheurs, savoir toucher du doigt notre péché, non pas pour déprimer, non pas pour se dire que finalement on ne vaut rien, mais le Seigneur attend de nous ce devoir de vérité et il attend de nous que nous lui présentions nos misères pour qu'il puisse venir faire miséricorde. La troisième image que donne le Seigneur Jésus, c'est celle de ce figuier. Voilà que dans la vigne, et ce n'est pas anodin que cela se passe dans une vigne, il y a un figuier stérile, voilà 3 années qu'il n'a pas donné de fruits. C'est une image que donne le Seigneur Jésus et les premiers interlocuteurs comprennent bien. La vigne, dans la tradition d'Israël, représente le peuple choisi. Et porter du fruit, cela montre bien que dans la vigne, tout doit porter du fruit. Le peuple de Dieu, choisi par Dieu, doit donner du fruit et du fruit en abondance. Il doit non seulement se sanctifier par la loi et l'alliance, mais il doit également transmettre cette bonne nouvelle de la loi, de l'alliance, à tous les peuples, ce qu'Israël ne fera pas ou fera mal. De telle sorte que le Seigneur pointe ici du doigt la stérilité du peuple élu. Ils auraient dû reconnaître le Seigneur Jésus. Ils auraient dû aussi savoir que tout homme est appelé à la conversion. Et les chefs du peuple n'auraient jamais dû laisser disséminer ainsi dans le peuple l'idée que si on meurt écrasé par une tour, c'est de la faute du bon Dieu, ou que si les Galiléens sont morts, finalement, c'était des pécheurs. Ce genre de raccourcis se sont répandus et le Seigneur rappelle que ce n'est pas parce qu'on fait partie du peuple élu, transposons aujourd'hui, parce que nous sommes chrétiens pratiquants, que nous ne risquons rien. Nous avons chacun à nous convertir. Et vous avez entendu combien le Seigneur nous y invite avec force. Et bien voilà que la bienheureuse Vierge Marie, sur les bords du Gave, nous appelle au même impératif. « Priez Dieu, nous dit-elle, pour la conversion des pécheurs que nous sommes. » Nous devons donc supplier la Vierge Immaculée eh bien, de nous aider en ce temps du carême à faire un examen de conscience, à savoir où se trouve notre péché, ce que nous avons fait de mal. Et nous avons aussi à demander au Seigneur la bonne volonté pour changer. Il ne s'agit pas seulement de changer quelque et quelque habitude le temps du carême, il s'agit de changer de cœur, de nous dévêtir du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. C'est ce que dit la bienheureuse Vierge Marie, « Allez à la source, boire et vous lavez ». Elle n'a pas attendu de faire jaillir la source de Massabielle pour que nous soyons abreuvés. Elle nous renvoie à la source qui n'est autre que le Seigneur Jésus, dont le cœur transpercé a vu jaillir du sang et de l'eau. Le sang, c'est le baptême que nous avons reçu. Et voilà que l'eau, c'est la miséricorde de Dieu. Nous sommes appelés à boire de cette miséricorde, nous sommes appelés à nous y laver. Cela se traduit donc, chrétiens, par le devoir pascal qui est celui de la confession pour pouvoir nous préparer à vivre les fêtes de Pâques. Le Seigneur Jésus, dont nous contemplerons le poids de la croix, la chute, les humiliations, a supporté cela pour nos péchés. Et si la Vierge Immaculée vient nous dire « Allez à la source, boire et vous lavez », c'est parce qu'aujourd'hui on va s'abreuver bien ailleurs qu'à la source du Seigneur. Et qu'aujourd'hui on relativise tellement le péché et nos péchés, moi le premier, que finalement aller boire à la source et se laver, cela paraît bien gentil. Eh bien le Seigneur nous invite avec force à nous convertir, que ce dimanche ne soit pas un dimanche de plus dans nos habitudes, mais qu'au contraire nous puissions y avoir la force puissante du Seigneur et cette résolution, oui, je me présenterai à la miséricorde du Seigneur comme lui-même a présenté son dos aux flagelleurs. Puisse la bienheureuse Vierge Marie nous aider en cela, ainsi soit-il.